What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
It's
been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dice? Come fa che dice?
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles, amoureux et engagés. Bonjour et bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Au programme aujourd'hui, amour et politique, avec Olivier. Salut Olivier.
Bonjour Sophie, bonjour tout le monde.
Et avec René. Salut
bonjour
René.
Bonjour à tous
et à toutes.
Et bonjour Sylvain.
Bonjour, bonjour.
Pardon. On parle donc des films Burke. Mon gâteau préféré, La vie devant moi, et personne n'y comprend rien. Alors attention, pour commencer, pour introduire le sujet de l'un des courts-métrages, un avant-goût, si je puis dire, ça va très vite. Attention, c'est parti.
Ah, ils mettent la langue.
Wesh, vas-y, barrez-vous là.
Vite, on se casse.
Ah, Burke. 5 courts-métrages, celui qui donne le titre du programme Burke de Loïc Espuche et 4 autres, sélectionnés aux César et aux Oscars 2025, on verra ce soir peut-être. Tu es allé voir,
oui.
Olivier.
Oui, Burke. C'est la poursuite de ma mission jeune public. Mm-hmm. Oui, là avec effectivement 5 très courts-métrages, 4 de 5 minutes, L'imbéqué, Dans la nature, Cowboy Kevin, et puis Le Grand Saut, effectivement. Et puis, un peu plus long, un quart d'heure, celui que nous venons d'entendre, Burke. Petite leçon sur le French Kiss. C'est alors, évidemment, un grand, grand plaisir que de voir de tels opus sur les écrans, sur les grands écrans locaux. Ça alimente mon envie de parler du cinéma jeune public, ça alimente mon envie d'appeler les parents à emmener leurs enfants au cinéma pour voir ça, parce que on est devant 5 esthétiques très différentes, même des techniques très différentes, du dessin minimaliste comme l'imbéqué, au stop motion, comme enfin en partie stop motion du Cowboy Kevin, et puis alors avec des idées aussi de réalisation graphique comme dans Burke. J'ai pas envie de dévoiler, je crois que c'est à découvrir, c'est assez magique ce qui se passe quand l'amour est là.
Parce que c'est le thème un peu de ces 5 courts-métrages.
Oui, c'est le thème des 5 courts-métrages, et de ce point de vue-là, mission accomplie naturellement. Alors, j'ai quand même un bémol autour de ces 5 courts-métrages, sur les 4 premiers. Et c'est déjà, il y a déjà des retours du public à ce sujet au navire. On en a parlé, c'est que c'est quand même un peu l'artillerie lourde de l'antispécisme, du gay friendly, du pro-transgenre, du etc. Et une fois de plus, a-t-on envie de dire, bon, c'est une défense de cause qui mérite d'être défendu, nous en sommes d'accord. Mais alors, c'est souvent un peu appuyé. Et puis alors, souvent, c'est assez mineur, pour ne pas dire infantile, en termes de légitimité philosophique, je dirais. L'imbéqué raconte l'histoire d'un oiseau qui naît sans bec et qui est évidemment rejeté de tous ceux qui en ont un. Bon. C'est une ode au respect de la différence. Bon, très bien, on ne peut évidemment qu'approuver. Mais c'est omettre que toute morale se fonde non pas tant sur la différence des uns aux autres, mais sur l'identité. Ce qui fait que je dois à l'autre le respect moral, que je dois le considérer non seulement comme un moyen, mais toujours aussi comme une fin. Ce qui fait ça, c'est qu'il est comme moi. C'est-à-dire qu'il faudrait réussir à...
L'identité, c'est... pas l'ipséité, mais la même-té.
La même-té, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faudrait amener quand même à découvrir derrière la différence l'identité humaine et le respect humain. C'est-à-dire, je trouve que ça manque un petit peu d'universalisme, d'une certaine manière. De la même manière, on va justifier l'homosexualité ou la transition de genre par la nature, hein, dans la nature, c'est le titre du deuxième, je ne sais pas, je ne crois pas, je suis même à peu près sûr qu'il n'est nul besoin de légitimer l'homosexualité ou la transition de genre. Ce sont des faits qu'on doit accepter comme des différences. Il n'y a pas à chercher une justification dans la nature. Il faut prendre garde quand même qu'en justifiant en référence avec la nature, à la nature, on peut justifier la tyrannie en observant les lions, on peut observer le totalitarisme en observant les fourmis. Je veux dire, il faut quand même bien voir que ça peut vite être du grand n'importe quoi. Disons que certains humains sont gays, et c'est très bien comme ça. Il n'y a pas... Ouais. Bon.
C'est très intéressant.
Oui, et puis alors,
cet argument d'autorité qui nous est resservi.
Exactement. C'est dommage de voir finalement la contre-culture, puisqu'il s'agit d'une sorte de contre-culture, faire les mêmes erreurs que la culture dominante. Bon,
utiliser les mêmes outils.
Oui, exactement. Dernier point, donc, pour Cowboy Kevin, là, on est carrément dans la légitimation du bizarre, quoi, hein, dans la mesure où on a un cowboy qui est amoureux de son cheval, mais amoureux de son cheval, vraiment. Et quand ils repartent à la fin du film, on se demande bien, ou se doute bien, de ce qui va se passer. Alors, que Kevin soit amoureux de son cheval, ça le regarde. De mettre ça en scène de cette manière-là, c'est limite malaisant. Et je sais que des parents sont sortis avec leurs enfants et des questions sur l'amour qui peut réunir, évidemment, un cow-boy, Kevin, et son cheval.
Burke. C'est le titre de ce programme.
Voilà. Bon. Non, mais ceci dit, j'étais évidemment presque contraint d'évoquer ces questions d'éthique et de philosophie, mais c'est un plaisir de voir ces courts-métrages en raison des performances esthétiques en particulier. Moi, j'ai beaucoup aimé Limbéqué, là, qui est là dans mon petit carnet. J'ai trouvé ce minimalisme vraiment confondant.
En tout cas, à voir au navire à Aubenas. Merci beaucoup. On continue avec l'amour, on en a bien besoin, qui peut aussi avoir une dimension politique. Tu en as déjà parlé d'une certaine manière, Olivier. Puisque avec toi, René, on parle d'une comédie romantique avec des septuagénaires dans une société ultra répressive en Iran.
Oui, tout à fait. Pour sa vivace.
Maman, il y a quatre ans. خیلی وقت پیش برام کادو آورده بود
Oui, c'était très court, c'était juste une petite immersion, puisque l'on parle rarement ou couramment le farsi ici. Mon gâteau préféré par Mariam Mogadam et Betsa Sanea. Désolé pour la prononciation, que tu es allé voir, René.
Oui, et je suis allé voir ce film hier soir, ou avant-hier soir plutôt, qui met en scène le personnage de Maïn, qui a 70 ans, elle vit seule à Téhéran, et bravant tous les interdits, elle va décider de réveiller sa vie amoureuse. Elle est veuve depuis 30 ans et elle décide de se mettre à recherche d'un homme. Et donc elle va provoquer une rencontre avec Farah Marz, qui est chauffeur de taxi, et ils vont passer une soirée inoubliable. Alors, c'est avant tout un film sur la solitude. Maïn, le personnage principal, vit seul dans son appartement, et pendant toute la première partie du film, on la voit évoluer, la caméra la suit, pas à pas, la cadre dans de longs plans. Son mari est mort, je viens de le dire, ses parents sont partis en exil, les amis s'éloignent. Il y a une scène très amusante au début du film, où elle réunit 5 ou 6 de ses amies femmes autour d'elle pour un goûter. Et plus tard, elle dit « Oh, avant, on se réunissait une fois par mois, maintenant, c'est une fois par an. » Voilà, la solitude. Mais c'est aussi un film sur la vieillesse, avec son cortège de problèmes, difficultés pour marcher, pour se déplacer. Elle a des difficultés pour dormir. Voilà, et solitude. La solitude étant inhérente à la vieillesse, comme le montre ce film, et ce qui serait souvent le cas. C'est surtout, je dirais, un film sur la résilience. En dépit de tous ces problèmes, Maïn se prend en main et provoque une rencontre, comme je l'ai dit, elle la met en scène en quelque sorte. Elle va arracher Faramaz à sa solitude, à lui, contre toute évidence, contre tout ce qui se passe dans ce pays prison qu'est l'Iran. Donc elle va chercher cet homme timide et tellement émouvant. C'est une belle et poétique histoire d'amour. Poétique parce qu'improbable. Voilà, cet homme... qui va très timide, très effacé, que cette femme vient chercher. On se dit, c'est pas possible ça, en Iran ? Eh bien si, ça se passe. Poétique aussi parce que ces deux personnages sont libres dans leur tête, peut-être plus libres que nous, paradoxalement. Et belle, c'est une belle histoire parce que toute expérience de liberté authentique est belle. C'est poétique aussi parce que tous les deux sont terriblement émouvants. Ils sont si émouvants qu'on finit par se prendre au jeu. On sort de la fiction, on a l'impression de les connaître. Et pendant un moment, on est dans l'universel. On sort un instant seulement de l'Iran et on entre dans cette galerie des couples amoureux qu'on trouve dans l'histoire de du cinéma et de la littérature. C'est ça qui est, c'est ce plan-là qui est très intéressant. C'est vraiment un film qui s'élève à un autre niveau. Mon gâteau préféré est aussi un film sur ce qu'on est tenté d'appeler un art de vivre en atmosphère confinée. J'ai dit que c'est un film sur la résilience et en effet, Maïn ne se contente pas de résister aux problèmes que lui pose la vieillesse. Elle résiste aussi au régime iranien et elle parvient dans une certaine mesure à faire fi du carcan que ce régime fait peser sur les gens. Elle se maquille, elle se couvre la tête, mais sans plus. Elle vient même dans une scène très intéressante, elle en vient même à défendre une jeune femme que les flics arrêtent parce qu'elle est à peine couverte. Et elle obtient gain de cause. Le flic bat en retraite, lapsus intéressant. Elle invite un homme chez elle. Alors qu'ils sont évidemment pas mariés. Ils boivent du vin, ils écoutent de la musique, ils dansent. Il y a chez ce personnage une intelligence et une espièglerie qui est très réjouissante. C'est un merveilleux pied de nez adressé au régime iranien et à d'autres régimes tyranniques. À ce sujet, on peut s'inquiéter pour Maryam Mokadam et son mari Behtash Saneha, prononciation non garantie, qui n'ont plus la liberté de quitter l'Iran, c'est eux qui ont fait le film, et je me demande bien ce qui va leur arriver. Est-ce que le succès du film, puisqu'il a eu des prix...
À la Berlinale notamment.
Oui, à Cabourg et d'autres. Je ne sais pas si ça peut les servir ou les desservir. Enfin, pour finir, c'est un film qui met en scène, mais de façon diffuse, en filigrane, la répression. Un seul policier dans le film, qui bat en retraite d'ailleurs, je l'ai dit. La voisine qui espionne, il y a une voisine qui espionne, elle vient là à la porte fouiner, soi-disant parce que son mari a une position un peu élevée dans le système. Cette répression, elle est aussi dans les propos des personnages qui nous la rappellent tout au long du film. Mais le fait que cette répression du régime soit filmée hors champ, en quelque sorte de façon indirecte, mise à distance, c'est plus efficace que si on assistait à des arrestations ou à des menaces. Les personnages parviennent en partie à y échapper, puisqu'ils échappent en quelque sorte à tout ce système et qui font ce qu'ils ont envie de faire. Mais pour les spectateurs, ça devient obsessionnel, parce qu'on la sent tout le temps, on nous la rappelle. Et on a peur pour ces personnages auxquels on s'est attaché. Quand on les voit danser, écouter de la musique, on se dit « mais ça y est, les flics vont débarquer ». Alors il y a des plans, on voit la porte vitrée avec des ombres qui bougent. Je dis « mais ça y est, les flics sont là, quoi ». Eh bien non, les flics ne débarquent pas.
Il ne dit pas tout quand même.
Enfin, ils ne débarquent pas, je ne sais pas. Et en même temps, ce film témoigne avec une rare sensibilité et une intelligence parfaite du fait qu'on peut emprisonner les corps, mais on ne peut pas emprisonner les âmes.
Merci, mais restons là-dessus. Merci beaucoup. Film, hein. Merci beaucoup, René. Mmh. Ouais. Il est donc au navire et à partir du 12 mars, il sera au Vence.
Et fait avec 4 sous, sans doute. Très peu de moyens, évidemment.
Mon gâteau préféré. On continue justement avec une autre forme de résistance.
Je m'appelle Toba Mirenbaum. Mon nom de jeune fille est Zilberstein. Nous ne sommes pas partis en zone libre pour la bonne raison que nous n'avions pas les moyens.
Quand vous parlez de la rafle, c'est laquelle dans vous...
Celle du 16 juillet.
Ils sont au bout de la rue ! Ils arrivent !
Prends des affaires et on part. Dépêche-toi !
J'ai parlé à mes amis les Dinonceaux. Ils ont une petite pièce au 6e étage. Ils vous la prêtent.
Avec les gardiennes, on a un code. En cas de danger, elle balaye rapidement dans la cour. Il faudra être le plus silencieux possible.
Madame Dinonceau.
La vie devant moi de Nils Tavernier, on a pu entendre Violette Guillon, notamment Adeline Dermy. Il y a aussi Guillaume Gallienne, René.
Non.
René, non. Olivier.
Moi, j'ai rien contre le fait de m'appeler René du tout. Hein. Enfin, il se trouve que mes parents ont choisi Olivier il y a quelques années. Bon, voilà. Alors, j'ai été voir ce film, effectivement, et je l'ai beaucoup apprécié, je le dis d'emblée. Évidemment qu'il m'a immédiatement, avant même d'aller le voir, j'ai pensé naturellement à la destinée d'Anne Frank, hein, qui... Alors, bon, il s'agit d'une famille juive, les Zilberstein, qui sont cachés par, on l'a entendu, les Dinonceaux, le 15 juillet... 42, la veille de la rafle du Veldiv. Ils sont mis dans une chambre de bonne où, et on va retrouver des thèmes qui sont dans le film dont parlait mon gâteau préféré.
Du confinement.
Ouais, voilà, ils sont confinés et avec une obligation d'être absolument mutique, silencieux. Il ne faut pas choquer une poêle contre une cuillère. Il ne faut pas... Voilà. Donc une atmosphère évidemment très très particulière avec... Comme tu l'expliquais pour mon gâteau préféré, une répression du gouvernement français, de la police française et évidemment de l'occupant allemand qui est essentiellement hors champ. Nous ne l'apercevons de manière assez adroite que par l'insertion dans le film de fiction d'images d'archives tournées à Paris à cette époque-là, dans les années... quand les Juifs ont commencé à devoir porter l'étoile, hein, 42, après la conférence de Wannsee. Donc, donc, on a pareil cette menace hors champ qui devient insoutenable et qui fait que nous commencerons à avoir peur pour cette petite famille, la mère, le père et la jeune fille qui a 14 ans, donc... à peu près l'âge d'Anne Frank. Ça peut faire penser évidemment aussi à Hélène Baer, qui avait aussi écrit un journal, ça avait donné le film de Sandrine Kiberlin, Une jeune fille qui va bien. C'est un film honnête. Et puis ça m'a fait penser aussi, autre juif caché comme ça, au film de Fred Cavaillé, Adieu Monsieur Hoffman, avec Daniel Auteuil et Gilles Lelouch, où alors là, il y avait en plus une histoire de trahison, hein, le traître occupant la boutique du monsieur, l'appartement du monsieur, pendant que le monsieur est terré dans une cave, à ne pas pouvoir intervenir alors qu'il voit qu'on le trahit à chaque minute. Donc on est dans cette ambiance-là, et moi en allant voir ce film, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir voir encore une histoire singulière de ce genre. Alors, à quoi on doit ce film, finalement ? À un documentaire qui avait été tourné par Steven Spielberg, qui s'appelle, alors je ne garantis pas la prononciation non plus, Survivors of the Shoah Visual History Foundation.
Il a fait ça.
Oui, il a fait ça. Donc, on comprend quand je prononce.
En 1994, c'est ça ?
97.
Film de fiction ou documentaire ?
Non, documentaire. Il a filmé toute une série de témoignages à archiver pour ne pas les perdre, ces témoignages. Et on entend effectivement, et on voit filmé par Spielberg, excusez du peu, Toba Gilberstein, aujourd'hui Toba Birnbaum, elle a épousé un résistant en sortant de sa captivité. Là.
Qu'on a entendu juste dans le petit son qu'on a écouté au tout
chopé,
début.
Ouais. Et effectivement, donc, alors, on a un film réussi parce que c'est vraiment un focus sur cette petite famille enfermée dans une chambre de bonne pendant deux ans et demi, trois ans. C'est une folie furieuse. Les personnages sont joués de manière absolument incroyable par Guillaume Gallienne qui joue le père, qui est dans des sentiments extrêmement fins de culpabilité, de crainte, de, etc. Sa femme est jouée, tu l'as citée tout à l'heure, par Adeline Dermy, qui est aussi de la comédie française, et vraiment, on sent que c'est pas pour rien, elle est incroyable, de arriver à tenir pendant une heure et demie à rien faire, hein, que faire sentir les jours qui s'accumulent, les jours qui s'ajoutent aux jours, avec une peur constante qui est finalement usante. Et puis l'adolescente, qui est celle qui, en particulier à cause de sa jeunesse, arrive le plus à repousser un petit peu les murs en trouvant une ouverture sur les toits, en s'attardant un peu aux toilettes, en allant un peu ailleurs récupérer du bois parce qu'ils se pèlent dans leur chambre de bonne. Elle est l'ouverture possible. Et c'est beau de voir que cette ouverture possible à l'intérieur de ce film, elle est réalisée par une femme dont on a le témoignage puisque elle est décédée en 2009 et a eu évidemment tout le temps de raconter son histoire.
Ça pourrait être une pièce de théâtre.
Oui,
mais d'ailleurs, j'ai lu dans les critiques justement qu'il y avait un côté théâtre filmé. Oui. Alors, la critique en parlait en le regrettant.
Oui.
Toi, non. Pour toi, c'est pas gênant. Ce que j'ai lu, mais c'est intéressant de t'entendre là-dessus, oui, c'est que du coup, ça nuisait au souffle du propos.
Eh bien, je crois pas, parce que figurez-vous que dans une situation comme celle-là, le fait qu'on manque de souffle, ça paraît assez compréhensible. Mmh. C'est-à-dire que peut-être que certains critiques y ont vu une atmosphère théâtrale, moi j'y ai simplement vu l'atmosphère qui devait régner réellement. Si vous voulez, ils sont sur une toute petite scène dont il faut absolument éviter qu'elle soit vue par des spectateurs. Et nous, on arrive là. Mais justement, c'est moi, c'est ce que je trouve. C'est toujours comme ça. Quand certains aiment un film, d'autres pas, c'est en général pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, moi, je trouve qu'ils ont justement réussi. J'ai beaucoup apprécié le fait que ce film, par exemple, me fasse sentir sensiblement la situation d'Anne Frank. Parce que le journal d'Anne Frank, c'est pour moi une lecture régulière. Je l'ai encore relu pour la je ne sais pas combienième fois il y a deux ans. C'est un ouvrage qui est vraiment passionnant. Et je n'avais jamais... parce que la littérature, c'est pas pareil. Hein, on est des mots, on est des généralités, des abstractions, finalement, quand même. Hein. Alors que là, on a l'image, on a le son. C'est presque comme si on avait les odeurs. Et donc, j'ai eu l'impression d'être transporté dans le refuge de la famille d'Anne Frank à la même époque, aux Pays-Bas.
Ils sont en conflit, finalement, ces trois personnes?
Non. C'est une famille extraordinairement soudée. Le père fait l'aveu de sa lâcheté. Parce qu'il se serait aimé résistant.
C'est intéressant. On l'a dans la... Alors là, je ne l'ai pas passé, mais dans la bande-annonce.
Dans la bande-annonce,
ouais. Déjà.
C'est pour ça que j'en parle.
Que ne dit-on pas dans une bande-annonce du film, hein. Oui. Bref, donc c'est cet épisode y est. Ouais.
Oui, cet épisode y est. Et on voit dans le regard de sa fille une sorte de compréhension et de pardon muet. Et donc c'est vraiment très 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 fort. C'est beau de voir d'abord d'ailleurs l'amour qui les unit. J'avais une petite réflexion un peu plus générale, si je peux me permettre rapidement, sur l'histoire. Écrire l'histoire, c'est toujours rendre compte de faits singuliers. Hein. L'historien n'a pas à qualifier les événements du tout. Pour cette raison-là, je recommande moi la lecture du seul livre qui m'a un petit peu impressionné et renseigné d'un point de vue historique sur la destruction des Juifs d'Europe, c'est la destruction des Juifs d'Europe, justement, et ses histoires folio de Raoul Hilberg, qui nous montre la destruction des Juifs d'Europe avec documents administratifs à l'appui, les trajets des bus, les trains, les horaires, les dimensions, les nombres, ouais, très très factuels, à tel point que c'est le lecteur qui doit aller à la rencontre de l'événement qui ne nous est donné que de manière extrêmement factuelle et abstraite. Et je crois que la connaissance historique, enfin, si on a, j'en parlerai certainement encore un petit peu après, si on a un devoir de mémoire, ce devoir de mémoire, il doit s'accompagner, il doit même être précédé d'un travail d'histoire, d'un travail historique. Parce que sinon, le devoir de mémoire, ça tourne vite à la commémoration politique ou autre. Donc, il y a un travail de mémoire qui s'impose, et à mon sens, l'histoire, elle culmine dans la biographie, pas dans le biopic hein, qui fabrique des légendes et des personnages.
Des non, oui.
Voilà. Mais dans la biographie, l'histoire culmine véritablement dans la biographie, c'est-à-dire dans le moment où on rencontre l'événement passé dans sa plus haute singularité. Mmh. Et ce film-là nous offre ça. Mmh. Et c'est ce qui est précieux. C'est intéressant de voir les différences, justement, avec Anne Frank, Ellen Baer, Etil Soum. Tout est dans la différence, là, pour le coup. Des vécus.
Merci, ouais, je te coupe. Parce que justement, si on veut avoir le temps un petit peu de parler du dernier film qui, je pense, le nécessite. Donc, La vie devant moi de Niels Tavernier, on ne revient pas sur. Voilà, il est en position difficile puisque accusé de viol. Niels Tavernier, accusé. Il est, en tout cas, ce film, La vie devant moi, est à voir au Navire, à Aubenas et à Rosières. Il sera à partir du 19 mars. Donc, allez voir La vie devant moi. On reste dans le domaine de l'engagement et du politique qui est nécessaire en réponse au cynisme et au foutage de gueule de Nicolas Sarkozy concernant l'affaire des financements libyens. Le 16 août 2023, il disait au Figaro « Les Français sont bien en peine de résumer ce qu'on me reproche. Personne n'y comprend rien. » Bah tiens.
On va comprendre que de l'argent a été mis sur la table.
Mais d'où venait cet argent ?
Aujourd'hui encore, la justice s'interroge.
Où sont les documents bancaires ? Où sont les virements ? Il n'y a pas un document, pas une photo, pas un compte, pas une preuve. Il n'y a que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie.
Qui peut croire à une fable pareille ?
Alors, je précise que dans la bande-annonce, le visuel, lorsqu'on entend Nicolas Sarkozy, c'est justement tous les documents, tout. En fait, c'est le contraire absolu de ce que dit Nicolas Sarkozy. Donc, personne n'y comprend rien de Yannick Kergoat, qui. Voilà. Donc. Olivier, tu as vu, personne n'y comprend rien.
Oui, j'ai vu, et puis je craignais de ne pas pouvoir en parler, parce que je ne l'avais pas vu avant vendredi dernier. Donc, et comme il va bientôt plus passer au Navire, mais tu me disais...
Alors, il ne passe plus au Navire, mais il va passer par contre à Rosières à partir du 12 mars.
Voilà, et c'est pour ça que ça me donne une raison de plus d'en parler. La raison principale, ce n'est pas celle-là, évidemment, c'est l'importance du documentaire. Alors, comme René est là, je vais utiliser une de ces formules qui est passée maintenant. C'est une formule de légende. C'est un film utile. Et comme ça, au passage, j'ai la bénédiction de René.
Absolument. Tu as mon imprimatur.
C'est ça, merci René. Oui, c'est un film utile parce que, si vous voulez, Le travail des journalistes de Mediapart n'est pas un travail qui a commencé pour faire ce documentaire. C'est un travail qu'ils effectuent pour le journal Mediapart en ligne et papier, je pense à une époque, aujourd'hui en ligne surtout, et qu'ils effectuent pour Mediapart depuis des années.
On les cite, Fabrice Arfi et Michael Hagenberg.
Merci. Qui ont été évidemment accusés de diffamation. On a porté plainte plusieurs fois, à plusieurs reprises contre eux pour les faits qu'ils dévoilent. Or, à chaque fois, ça a été assorti de non-lieu. Si bien que d'un point de vue purement juridique, on est en droit de dire que ce que ces journalistes montrent dans ce documentaire est vrai. Bon, ça fait du bien de commencer comme ça, quand même, hein, par rapport à tout ce que j'ai dit à l'instant sur la connaissance historique, si vous voulez, des choses. Voilà. Alors, moi, ce que ce film m'a fait, c'est qu'il m'a amené à montrer, à sentir et, à, si possible, à expliquer le contraste qu'il y a entre des principes de droit et puis la réalité humaine. Il y a un principe de droit qui est suspendu au-dessus de nos têtes quant à l'affaire Sarkozy, c'est les délais de prescription. C'est-à-dire que ce qui nous menace socialement, politiquement, judiciairement, ce qui nous menace, c'est l'oubli, précisément. C'est-à-dire que cette horrible affaire, on pense quand même que Nicolas Sarkozy a reçu de l'argent de Kadhafi, qui était quand même le souverain d'un État terroriste, à l'époque où il finançait peut-être la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. On est dans un événement gravissime. C'est pas le petit mensonge qui arrange tout le monde au final. Non, on est, voilà. Et donc, j'en ai discuté souvent, les juristes, à commencer par ma fille. Évidemment qu'il y a des raisons pour qu'existe un délai de prescription. Mais si on sort de ce principe de droit pour revenir à la réalité, on se retrouve dans la situation, par exemple, de femmes qui ont été violées, qui se sont trouvées dans l'impossibilité pour des tas de raisons d'en parler, à commencer par des raisons psychologiques, mais aussi sociales, politiques, professionnelles, voilà, etc. Et quand elles se décident enfin, aidées par exemple par le mouvement MeToo, par d'autres paroles qui se libèrent, quand enfin elles viennent parler, on leur dit que c'est trop tard. Mais c'est trop tard pour le droit. Pour elle, c'est pas trop tard. C'est toujours présent, évidemment, identiquement. Donc, nous subissons les agir de malfrats qui sont aux positions les plus élevées de l'État. Hein, et il faudrait qu'on oublie. Ben non, on va pas oublier, on va bien se le mettre sous le coude, et puis on va le ressortir à chaque fois qu'il faudra, et puis on va chercher si d'autres choses analogues se produisent. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est cette fameuse présomption d'innocence. La présomption d'innocence, évidemment qu'elle est justifiée d'un point de vue juridique. Tant que le prévenu n'est pas condamné et reconnu coupable, il est présumé innocent. Oui, ça c'est du droit, c'est un principe de droit. Mais revenons maintenant à notre humanité. Pour notre humanité, nous sommes devant des faits incontestables et qui convergent de manière extrêmement dangereuse, peut-être pas jusqu'à produire une preuve matérielle, bien qu'il y en ait, mais pas mettant en cause Sarkozy qui a été suffisamment adroit pour utiliser ses proches comme des fusibles et lui-même ne pas être atteint directement. Mais nous sommes devant une telle convergence des faits autour de Nicolas Sarkozy que tout est prêt pour que les juges jugent en situation d'intime conviction, naturellement, qui est une possibilité juridique également. Alors, moi, je voulais insister, et c'est aussi en rapport avec le film La vie devant moi, que cette présomption d'innocence, il faut faire attention qu'elle ne fasse pas le lit du négationnisme et du révisionnisme, vous comprenez ? Parce qu'effectivement, on ne peut pas voir Neil Armstrong et Buzz Aldrin marcher sur la Lune. On peut donc toujours supposer qu'ils n'y ont jamais mis les pieds, évidemment. Mais bon, on ne peut pas voir des nazis mettre des corps de juifs morts dans des crématoires. On ne peut pas le voir aujourd'hui. Mais archéologiquement, historiquement, du point de vue des témoignages, on a une telle somme de faits rapportés que remettre en cause l'idée même de solution finale, qui d'ailleurs a été avouée par le régime, évidemment, on renvoie à une malhonnêteté intellectuelle là, de fond.
Une prescription.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que dans des cas comme ça, y a pas on ne peut pas dire après X années qu'on ne peut plus en parler.
Non, bien sûr. Là, je sépare la question de la prescription de la question de la présomption d'innocence, qui sont deux principes de droit qui ne tiennent pas, à mon avis, eu égard à nos réalités humaines.
Oui, 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 oui.
À un moment donné, moi, je veux bien le présumer innocent, cet homme. Mais humainement, je peux pas.
Non.
Et je ne le dois pas.
Et tu ne le dois pas. Ouais, et nous ne le devons pas. Et nous allons voir à partir du 12 mars à Rosières, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, personne n'y comprend rien. Tu voulais ajouter quelque chose, René ? Non. Il est
l'heure. Si, je voulais ajouter ceci, si on a une seconde. C'est, il a accepté. Comment ça se passe ? Je ne l'ai pas vu, le film. C'est basé sur des images d'archives. Il n'a pas accepté de parler devant les journalistes de Mediapart.
Non, mais on a des tas de témoignages environnants et des tas de rencontres, des rapports de rencontres entre les proches de Sarkozy et les élites du régime de Kadhafi. Enfin, on a une masse de faits qui concourent.
Ah oui, oui. Non, c'est pas ce que je veux dire.
Non,
je veux dire,
pardon.
C'est le matériel qu'ils ont utilisé pour le film, je veux dire. C'est tout des images d'archives.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Oui.
Là.
Ah, oui. Non, c'est très. Ah oui, c'est
archives récentes, mais archives.
D'un point de vue filmique, c'est en plus le montage, etc. C'est extrêmement
bien fait.
Oui, c'est extrêmement bien fait, oui.
Personne n'y comprend rien, sauf qu'il est midi 45-50 secondes, l'heure de rendre l'antenne. Merci beaucoup Olivier, merci beaucoup René et merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour un prochain Cinémascope et même avant pour parler de Plan Large, le festival qui aura lieu la semaine prochaine à l'USAS. Ciao.
Ouais, un festival.